RFI. À l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, Donald Trump, accueilli par Joe Biden, est à la Maison Blanche.
Un plaisir non dissimulé d'un revenant. Donald Trump fait son retour dans ce haut lieu du pouvoir américain. Nous sommes à Washington. Donald Trump qui par ailleurs nomme Elon Musk dans son gouvernement. Un choix qui fait fuir de nombreux utilisateurs du réseau X, dont Elon Musk est le propriétaire. Dernier média en date à dire au revoir à X, The Guardian. Quand les éléments s'abattent sur l'Espagne, la région de Valence est de nouveau placée en alerte rouge pluie. Une conférence internationale sur le climat sans représentation officielle de la France. La ministre de la Transition écologique n'ira pas à Bakou. En France, les hommages discrets aujourd'hui des victimes aux attentats du 13 novembre 2015.
Et puis le Bitcoin qui a franchi un nouveau palier, la barre des 90 000 $ pour l'acquisition d'un Bitcoin a été franchi. Pourquoi la crypto-monnaie star s'affole-t-elle tant ? Réponse à suivre avec nos collègues du Figaro, ce sera juste après le journal.
RFI.
Salutations, congratulations. C'était il y a quelques instants Joe Biden, Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Presque 4 ans après son départ, après une défaite électorale contestée, Donald Trump était donc de retour dans ce lieu qui incarne le pouvoir américain. Guillaume Nodin à Washington pour RFI, bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous.
Donald Trump a retrouvé Joe Biden et les deux hommes se sont serrés la main.
Oui, l'ambiance était plutôt cordiale dans le bureau ovale, du moins pour les quelques secondes durant lesquelles la presse a été autorisée dans le sein des seins de la puissance américaine. On a connu pire, notamment quand Donald Trump avait succédé à Barack Obama en 2016. Là, les deux hommes se sont adressés l'un à l'autre par leur prénom en se donnant du Joe et du Donald. Joe Biden a félicité Donald Trump et lui a souhaité la bienvenue, vous l'avez entendu. Il lui a promis, comme il le dit depuis la fin de la semaine dernière, ce à quoi lui-même n'a pas eu droit il y a 4 ans, une transition en douceur et en fournissant toute l'aide possible, a-t-il précisé. Donald Trump l'a remercié. Il promet de faire en sorte que la transition se déroule le plus en douceur possible, ce qui est déjà une nuance. La politique, c'est dur, ajoute Donald Trump, et très souvent, c'est un milieu désagréable, mais c'est agréable en ce cas précis, conclut-il, avant que les médias soient priés de sortir et avant que la réunion commence pour de vrai.
Quelques minutes auparavant, devant les élus républicains de la Chambre, Donald Trump était dans le même état d'esprit, Guillaume.
Oui, triomphant même et expliquant qu'il est vraiment, vraiment agréable de gagner. Il a même évoqué la possibilité de gagner dans des États aussi démocrates que la Californie ou l'État de New York à l'avenir. L'avenir, son avenir, il l'a évoqué en disant aux élus, je cite, « Je pense que je ne me représenterai pas, à moins que vous ne disiez que je suis tellement bon qu'il faut trouver autre chose. » Rappelons que le 22e amendement de la Constitution américaine limite à 2 le nombre de mandats de président qui peuvent être exercés par une seule personne. Et Donald Trump va commencer son deuxième.
Et dans la politique américaine, il vient d'être élu chef des Républicains du Sénat. John Thune remplace le ténor Mitch McConnell en poste depuis 17 ans. C'était Guillaume Nodin à Washington.
Alors depuis le soutien affiché de son propriétaire Elon Musk à Donald Trump, et bien des centaines de milliers d'utilisateurs quittent X, le réseau social X.
Et aujourd'hui, c'est le Guardian qui a décidé de quitter X. Le quotidien britannique qualifie le réseau social d'Elon Musk de plateforme médiatique toxique. Sur X, le Guardian est suivi par près de 27 millions de personnes. Christophe Paget, le quotidien, a publié son dernier message tôt ce matin.
Nous y réfléchissions depuis longtemps, explique le Guardian, à cause du contenu qu'on trouve sur X ou que la plateforme promeut directement, comme des théories complotistes d'extrême droite ou du racisme. Cette décision, le quotidien l'a prise suite à la campagne pour la présidentielle américaine, qui, explique-t-il, n'a fait que souligner ce que nous considérons depuis longtemps. X est une plateforme médiatique toxique et son propriétaire Elon Musk a su utiliser son influence pour façonner le discours politique. De fait, le président américain élu Donald Trump vient tout juste de nommer le milliardaire à la tête d'une commission. Elon Musk est, depuis son rachat de Twitter en 2022, critiqué par l'Union européenne et par des groupes combattant les discours de haine. Il a réduit au minimum la modération sur le réseau et a permis à certaines figures qui en avaient été bannies d'y revenir, comme Donald Trump, le conspirationniste Alex Jones ou encore le militant anglais d'extrême droite Tommy Robinson. Le Guardian n'est pas le premier média à quitter X. L'an dernier, deux médias américains, NPR et PBS, étaient partis après avoir été labellisés par la plateforme « médias financés par le gouvernement ». Réaction d'Elon Musk au départ du Guardian, ils sont insignifiants.
Christophe Paget, du service international de RFI au Proche-Orient, Adrien. Une nouvelle vidéo d'un otage israélien.
Le djihad islamique, groupe allié au Hamas, a publié aujourd'hui les images d'un des Israéliens pris en otage le 7 octobre 2023 en Israël. La vidéo montre un jeune homme barbu, il s'exprime en hébreu. Il fait allusion notamment à l'offensive militaire israélienne au Liban, lancée dans la deuxième moitié de septembre, et puis aux raids aériens israéliens contre l'Iran fin octobre, et appelle les Israéliens à intensifier les manifestations visant à faire pression sur le gouvernement en vue de la libération des otages retenus à Gaza.
Et puis cet événement qui intervient dans un contexte très tendu.
À la veille du match de football France-Israël à Paris, un autre événement fait polémique dans la capitale. L'association Israel Forever, composée de personnalités franco-israéliennes d'extrême droite, organise ce soir un gala annuel rebaptisé Gala de la Honte par plusieurs partis politiques et associations. Une marche unitaire est organisée en parallèle à Paris pour protester contre l'événement. Nous retrouvons dans la capitale notre reporter Amélie Beaucourt. Amélie, vous êtes sur le parvis de la gare Saint-Lazare au départ de cette contre-manifestation.
Oui, bonsoir Adrien. Il y a plusieurs centaines de personnes ici qui ont commencé à quitter la gare Saint-Lazare direction la place de la République avec des drapeaux palestiniens, des keffiyehs autour du cou. Ce rassemblement, il a commencé il y a une petite heure avec plusieurs prises de parole d'élus et puis d'associations juives y compris, qui dénoncent la tenue de ce gala qu'ils considèrent comme une provocation supplémentaire à la fois de la part d'Israël, mais aussi de la part de l'État français qui n'a pas annulé l'événement. Pourtant, la justice avait été saisie récemment sur la question pour demander son annulation, une demande qui a été rejetée par le tribunal administratif. La colère qu'on entend ici dans la foule, elle concerne aussi le match de football qui a lieu demain entre la France et Israël et à laquelle compte assister le chef de l'État Emmanuel Macron. Ça ne passe pas d'ailleurs, c'est un manque de respect, me disait une dame que j'ai croisée ici. Et c'est pour ça qu'elle est venue marcher jusqu'à la place de la République. Le cortège vient tout juste de partir, Adrien.
Amélie Beaucourt, en direct de Paris.
En Allemagne, à présent, nous sommes à un peu plus de 3 mois des prochaines élections. Et puis, on en a parlé dans le débat du jour. Olaf Scholz, ce mercredi, défendait son bilan devant les députés du Bundestag.
Et il était très combatif. Il a notamment défendu sa position sur l'Ukraine. L'Ukraine qui sera, selon lui, l'un des points forts de cette campagne électorale. Nathalie Versieux nous appelle de Berlin.
Fortement chahuté depuis les rangs du parti d'extrême droite AfD, Olaf Scholz a défendu avec un ton inhabituellement passionné sa politique ukrainienne.
Nous devons veiller à ce que l'Ukraine, en tant que nation démocratique et souveraine, ait de bonnes perspectives d'avenir. Nous avons la responsabilité qu'elle ne soit pas abandonnée. Mais je le dis expressément, je suis opposé à ce que les armes que nous livrons soient utilisées pour frapper loin dans le territoire russe et je ne changerai pas de position sur la livraison de missiles de croisière allemands.
C'est indirectement le soutien à l'Ukraine qui a précipité la chute de la coalition. Face au Bundestag, Olaf Scholz explique ne pas avoir voulu financer l'aide à l'Ukraine sur le budget au détriment des retraites ou de l'investissement. Favorable à davantage de dettes, il s'est opposé au refus catégorique de son ministre libéral des Finances, adepte lui de l'orthodoxie budgétaire et qu'il a finalement limogé. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Cet autre fait du jour marquant concernant la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, d'après les États-Unis et la Corée du Sud, la présence de militaires nord-coréens engagés dans des combats dans la région russe de Koursk. Les troupes nord-coréennes ont été déployées sur le champ de bataille, indique le service de renseignement sud-coréen.
Il est 18h09 en temps universel, place à notre dossier dans le Grand Journal du Soir avec vous Adrien Delgrange. Et ce soir, on s'intéresse à cette troisième journée, à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan.
En l'occurrence, une journée un peu agitée alors que les chefs d'État et de gouvernement se succédaient à la tribune dans ce qu'on appelle le segment de haut niveau. Simon Rosé, bonsoir.
Bonsoir.
Et comme hier, deux tons très différents entre pays frappés de plein fouet par les conséquences du réchauffement climatique, et les autres.
Et oui, rappelons que l'enjeu de cette COP, c'est de revoir à la hausse l'enveloppe financière que doivent verser les pays riches, responsables historiques du réchauffement climatique aux pays en développement, pour qu'ils puissent faire leur transition énergétique et s'adapter aux conséquences. Aujourd'hui, c'est 100 milliards de dollars par an. Les pays en développement ne sortiront pas satisfaits si cette somme n'est pas multipliée par 10. On a déjà vu des négociations plus simples, Adrien.
Et qu'ont dit les chefs d'État, justement, leur intervention est censée donner un élan politique à ces négociations.
Eh bien, cet élan, on l'attend encore, à vrai dire, hein, et les positions apparaissent figées. Mohamed Younous, le dirigeant par intérim du Bangladesh, a jugé humiliant l'obligation faite aux pays pauvres de supplier afin d'obtenir de l'argent pour régler des problèmes causés par des pays riches. Et de manière plus générale, les dirigeants des pays en développement ont tous tenu à rappeler l'urgence, à l'image de Deacon Mitchell, le premier ministre de la Grenade.
I lead a country that this year...
Je dirige un pays qui a connu une sécheresse de 15 ans, qui, en juillet, a connu l'ouragan de catégorie 5 le plus précoce. Il a dévasté nos îles. En ce moment même, alors que je suis face à vous, une nouvelle fois, mes îles sont dévastées par des crues éclairs, des glissements de terrain et un déluge de pluie tombé en quelques heures. C'est la réalité des petites îles. Nous ne sommes pas là pour supplier. Nous ne sommes pas là pour votre sympathie, mais pour montrer que nous sommes tous concernés. Ce sera l'Espagne demain, ce sera la Floride le jour d'après.
Florida. The day after.
Et dans ce contexte, il faut de l'équité, il faut de la justice climatique. Les pays riches doivent soutenir les autres. Il reste 10 jours de négociations pour parvenir à un compromis. Elles vont être compliquées ces journées. À l'heure où l'on parle, il y a 173 crochets dans le projet d'accord, c'est-à-dire 173 formulations qui ne font pas consensus.
Enfin, il reste du travail, Simon, d'autant plus que l'ambiance apparaît tendue à Bakou.
La délégation argentine a plié bagage, elle ne participera plus aux discussions. Ordre du président climato-sceptique Javier Milei. Et la France n'enverra pas sa ministre la semaine prochaine. Agnès Pannier-Runacher snobera Bakou en réponse aux déclarations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev qui affirmait ce matin que la France s'était livrée à des crimes coloniaux en Nouvelle-Calédonie.
Simon Rosé pour ce dossier de la rédaction. Autre soubresaut de la terre en Europe, en Espagne. Le danger est extrême. Évitez les déplacements. Des débordements de cours d'eau et d'inondations peuvent avoir lieu. Dernier message des autorités locales à Valence. La région de Valence en Espagne, placée ce soir en alerte rouge aux pluies.
Et puis également dans l'actualité environnementale, Adrien, il va au minimum encore 21 jours, rester encore 21 jours derrière les barreaux.
Oui, Paul Watson, Romain, reste en détention jusqu'au 4 décembre. Le militant écologiste, défenseur des baleines, est dans l'attente de la décision du gouvernement danois sur la demande d'extradition du Japon. Prochaine audience sur la détention de Paul Watson le 2 décembre.
Allez, 19h, bientôt 13 minutes ici à Paris, et au nom de la défense des agriculteurs et de la nature, rare unanimité en France, le monde politique et les acteurs agricoles français sont mobilisés pour dire leur opposition à la signature d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.
L'Union européenne semble déterminée à paraffer le texte qui va officialiser cet accord de libre-échange avec les pays latino-américains. Ce sont donc le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Et ce grand dame de la France qui refuse toujours en l'état de signer le texte. Les agriculteurs français sont vent debout, Anne Verdaguer.
Pour ces agriculteurs, un accord aurait des conséquences dramatiques pour la production, l'emploi et la souveraineté alimentaire de la France. Franck Laborde, président des producteurs de maïs français et européens.
Le Mercosur est l'illustration parfaite de l'importation de production que nous ne voulons pas produire et consommer en France. Imaginez-vous que 77,5% des produits utilisés au Brésil pour produire du maïs sont interdits en France. Le consommateur français, le consommateur européen ne veut pas de ça.
Avec 99 000 tonnes de bœuf et 180 000 tonnes de volaille qui entreraient en France à bas prix, il faudrait donc de vraies clauses miroirs, mais aussi renforcer les contrôles au niveau européen. Patrick Bénézy, président de la Fédération nationale bovine.
Ces pays-là sont habitués à travailler avec les hormones, ils le font, et c'est pas parce qu'ils auront un contrôle tous les ans ou tous les deux ans de la Commission européenne qu'ils ne continueront pas. Donc ils ne respectent même pas la seule clause miroir qui leur a été imposée depuis que certains accords existent. Donc aujourd'hui, c'est la confrontation de deux modèles, c'est-à-dire un modèle européen, notamment en viande bovine, très vertueux, qui a beaucoup de normes à respecter, certainement trop, avec un modèle où tout ce qui est interdit chez nous est autorisé chez eux.
Les députés français de tous bords font eux aussi front commun contre cet accord Mercosur afin d'obtenir une minorité de blocage au sein de l'Union européenne.
Anne Verdaguer, service économie de RFI en France. C'était il y a 9 ans, un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.
Le Premier ministre Michel Barnier ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont assisté ce matin à une cérémonie devant la salle du Bataclan. le 13 novembre 2015. Les attaques terroristes ont coûté la vie à 92 personnes dans cette salle de concert du 11e arrondissement de la capitale. Une minute de silence a été observée. Des bouquets de fleurs ont été déposés devant l'entrée du Bataclan. Au total, ces attaques terroristes, vous le disiez, il y a 9 ans, Romains qui ont frappé la France, ont tué au total 130 personnes.
Enfin, Adrien, Tiken Jaffa Coli en concert à Paris.
Oui, le chanteur de reggae ivoirien doit être à cette heure-ci dans les loges de la salle Playel avant de monter sur scène dans un peu plus d'une heure pour donner un concert qui sera retransmis sur RFI. En voici un avant-goût.
Laisse le peuple vivre. Laisse le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Mais laissez-le choisir. Élection truquée. Démocratie volée. Opposants arrêtés. Tout est manipulé. Les radios censurées. Les manifs désertés.
Tikenja Fakoli sur RFI. Concert du chanteur de reggae ce soir à écouter. 20h40, temps de Paris.
On est dans le starting block, c'est dans une heure et demie. Vous serez à l'écoute, hein, Adrien.
Évidemment.
C'était Grange lundi soir. Merci beaucoup à vous, Adrien Delgrange. Allez, dans les prochaines minutes, nous analyserons l'envolée du Bitcoin. La crypto-monnaie star n'en finit plus de battre des records. Cet après-midi, le Bitcoin a franchi la barre des 90 000 dollars. Un Bitcoin, tout s'accélère depuis la victoire de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pourquoi ? Eh bien, nous appellerons le Figaro qui consacre un dossier à ce sujet. Puis direction l'Allemagne, où l'économie souffre. Illustration dans un lieu symbole, le siège du constructeur automobile Volkswagen à Wolfsburg. Reportage à suivre. Pour l'heure, voici les sports. Avec Sofiane Amazian, bonsoir Sofiane.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, le foot, J-1 avant cette rencontre qui fait évidemment beaucoup parler en Ligue des Nations entre la France et Israël, contexte sécuritaire qui s'annonce tendu au Stade de France.
Ouais, une rencontre sous le feu des projecteurs tant sur le plan sportif que sur le plan extra-sportif, vous l'avez si bien dit Romain, car les Bleus ne doivent pas perdre ce match pour pouvoir récupérer cette fameuse première place occupée pour l'instant par l'Italie qui sera le prochain et dernier adversaire de l'équipe de France dans cette Ligue des Nations et en même temps, il y a ce fameux contexte sécuritaire à prendre en compte avant, pendant et après le match au Stade de France qui s'annonce peu garni demain, environ 15 à 20 000 personnes. Pour N'Golo Kanté, il faut absolument se focaliser sur l'enjeu, même s'il admet que les joueurs ont leur avis sur la situation au Proche-Orient.
En venant en équipe de France, on sait qu'on représente l'équipe de France, pas forcément nos opinions personnelles. Après, ce qu'on va faire, voilà, c'est de donner le maximum pour le maillot, de se qualifier pour la fédération, pour l'équipe de France, pour ce que ça représente. Après, on a tous des avis personnels qu'on souhaite partager ou pas. Moi, personnellement, ça fait un peu de peine et un peu attristé de voir ce qui se passe. On espère que ça s'arrange. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on vient en équipe de France, on représente le foot français et ce qu'on doit faire, c'est gagner, se qualifier et écrire des belles pages de foot. Ouais.
Et des propos recueillis par Saliou Diouf, N'Golo Kanté qui portera le brassard de capitaine ce jeudi soir. Cela a été confirmé par le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse.
Allez, également en foot, Sofiane, 3 matchs ce mercredi hein, sur le continent africain, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Et le Cameroun, d'abord, déjà qualifié pour la prochaine CAN au Maroc, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 en Namibie. Les Lions Indomptables restent tout de même leaders de leur groupe et ça vient de se terminer. Le Liberia qui élimine officiellement le Togo après sa victoire 1-0 et puis à suivre dans moins d'une heure dans le groupe G, le Tchad, bon dernier, avec 2 petits points, joue sa survie face à la Sierra Leone, 3e.
Et puis ça joue également en football féminin, c'est la 3e journée des phases de poule de Ligue des Champions et il y a en ce moment un choc au sommet entre l'AS Rome et l'Olympique Lyonnais.
Les Fenotes, c'est le surnom de l'Olympique Lyonnais, sont bien partis pour disputer les quarts de finale de cette compétition, 2 victoires en 2 matchs face à Galatasaray, face à Wolfsburg, toujours aucun but encaisser. Déplacement périlleux tout de même à Rome, quatrième du championnat féminin cette saison. Match à suivre, alors c'est pas tout de suite Romain, c'est à 20h, temps universel.
Bon, c'est dans pas très longtemps, c'est dans un peu plus d'une heure.
Vous êtes pressé.
Du tennis pour terminer, Sofiane Amazian, l'Espagnol Carlos Alcaraz qui se relance au Masters ATP de Turin en Italie.
Oui, Carlos Alcaraz, le troisième joueur mondial qui revient dans la course aux demi-finales des Masters ATP en battant le russe Andrei Rublev, 8e mondial, 6-3, 7-6 à Turin ce mercredi, malade avant-hier et battu par le Norvégien Casper Ruud. Le jeune Espagnol a retrouvé ce mercredi ses meilleures sensations, le numéro 3 mondial satisfait après la balle de match Carlos Alcaraz.
J'aurais pu me sentir mieux, je ne vais pas vous mentir. Vous savez que cette semaine, j'ai été tracassé par ma santé. Aujourd'hui, je me suis dit que ça irait mieux et j'étais plutôt prêt à jouer. Mais en entrant sur le court, je voulais surtout penser à jouer du bon tennis, à produire du haut niveau. Lors du premier jour, après le match, j'étais déçu de ne pas avoir pu divertir le public. Et là, je voulais absolument rendre les gens heureux, leur faire plaisir avec mon jeu. Et vraiment, cette fois-ci, je pense que j'ai joué un excellent tennis.
Et tout à l'heure, le deuxième match du jour opposera donc Casper Ruud à l'allemand Alexander Zverev.
Sofiane Amazian pour Journal des Sports. Merci beaucoup à vous. 19h, bientôt 21 ici à Paris. Un chiffre à présent, 90 000 dollars. Il faut désormais débourser 90 000 dollars pour s'acheter un bitcoin. C'est un seuil qui n'avait jamais été franchi. Le bitcoin n'en finit plus de battre des records depuis une semaine. Bonsoir Jacques-Olivier Martin.
Bonsoir Romain.
Depuis la rédaction du Figaro, vous vous intéressez à cette course folle. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'engouement qui s'est créé autour du bitcoin depuis un certain 5 novembre ?
Oui, alors je vais revenir juste un petit peu en arrière parce que en réalité, pour bien comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours, il faut revenir quasiment 2 ans en arrière. Le Bitcoin était à moins de 25 000 dollars. Vous aviez parlé là de 90, il était à moins de 25 000 dollars. Il était tombé très bas. Et à ce moment-là, on s'est dit, oh, c'est la fin des crypto-monnaies, le Bitcoin, c'est fini. On l'a cru. Et puis progressivement, il a repris. Et puis, il s'est accéléré énormément le cours du Bitcoin depuis le début de l'année. Et puis là, depuis l'élection de Donald Trump, il a gagné 20%, c'est-à-dire plus de 15 000 dollars en une semaine. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Et on parle donc depuis quelques jours véritablement d'un effet Trump.
Alors, vous avez consacré un dossier important au Figaro, au Bitcoin. Pour quelle raison ?
Alors, disons qu'on a voulu revenir sur cet effet Trump, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui fait que depuis 8 jours, ça augmente ? Eh bien, tout simplement parce que le nouveau président américain, Donald Trump, qui était assez rétif sur le Bitcoin il y a quelques années, au cours de sa campagne, a dit 2 choses. Déjà, il s'est entouré de gens qui l'ont financé, qui sont les vrais défenseurs des crypto-monnaies. Donc, on s'est dit, tiens, c'est l'ami des crypto-monnaies et des gens qui sont dans les crypto-monnaies. Puis la deuxième chose, c'est qu'il a dit, alors on ne sait pas d'où vient cette initiative, on va déréglementer, on va faciliter le développement du Bitcoin. Et avec son élection, ça a créé un phénomène où il y a eu plein d'investisseurs qui se sont dit, waouh, il arrive, autant investir dans le Bitcoin, on va faciliter le développement du Bitcoin et donc le Bitcoin va monter. Et donc, comme il y a de plus en plus de demandes, effectivement, on a l'accélération de ces derniers jours. Et c'est ça dont on a voulu parler dans le journal de demain. L'autre élément, il faut quand même le préciser, il monte également pour d'autres éléments peut-être un peu plus structurels, c'est que depuis quelques mois, la finance mondiale est en train de développer des nouveaux produits. Alors, on parle d'ETF, je ne vais pas rentrer, d'ETF Bitcoin, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est des outils qui permettent de profiter des évolutions du Bitcoin assez facilement en investissant assez peu d'argent. On en gagne peu, mais si on investit 1000, on peut multiplier par 4 sa mise si le Bitcoin a été multiplié par 4. Et donc, ce phénomène financier, plus l'arrivée de Trump qui promet une déréglementation, ça crée un coup de boost et c'est ça qu'on a voulu expliquer.
Le phénomène, Jacques-Olivier Martin, d'engouement du Bitcoin depuis quelque temps est mondial. Est-ce que la France est touchée ?
Alors oui, absolument. C'est l'un des papiers de cet ensemble qu'on publie demain. C'est la fièvre des cryptos qui s'empare aussi de la France, des plus jeunes, via les réseaux sociaux. Peut-être un chiffre. Il y a 6,5 millions de Français qui possèdent des crypto-monnaies. Donc, c'est pas anecdotique, 6,5 millions. Et donc là, on assiste depuis quelques mois a de plus en plus de... C'est une clientèle très jeune, essentiellement moins de 35 ans, mais pas que. Et donc, ils sont très sensibles aux réseaux sociaux. Ils s'informent sur les réseaux sociaux et on note, effectivement, depuis quelques mois, avec la remontée du Bitcoin qui a maintenant quasiment un an, gentiment, de plus en plus de messages, de discussions dans les réseaux sociaux autour des Bitcoins qui créent de l'appétit et qui créent un mouvement. Et donc, oui, la France est complètement impliquée aussi dans cette, entre guillemets, folie du Bitcoin.
Et est-ce qu'on sait à quoi il faut s'attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce que cette hausse du Bitcoin va se poursuivre?
Alors, il a été créé en 2008. Moi, je l'ai suivi depuis le début. Je suis passionné par ces crypto-monnaies en tant que journaliste. Je l'ai vu très haut, je l'ai vu très bas, je l'ai vu très haut, je l'ai vu très bas. Là, il atteint des records absolus. Il pourrait peut-être tutoyer les 100 000 dollars. Après, moi, j'aurais tendance, alors peut-être être trop prudent, mais de penser que c'est plutôt, on n'en est pas au début de la hausse, mais on en est peut-être à la fin. Il pourrait y avoir de nouveaux soubresauts, il pourrait rebaisser et peut-être un jour repartir. Mais je pense que là, on est allé très très loin.
Dossier concernant le Bitcoin, l'envolée du Bitcoin, ce sera à découvrir ce jeudi dans le Figaro et évidemment sur votre site internet. Merci beaucoup, Jacques-Olivier Martin.
Merci, Romain.
Et on continue à parler économie, direction à présent l'Allemagne, locomotive européenne dans le domaine, mais qui souffre actuellement. L'Allemagne est en récession pour la deuxième année consécutive. Et un secteur illustre bien ces difficultés, c'est le premier employeur industriel du pays, c'est l'automobile, qui en compte 800 000 salariés. Les grands noms annoncent les uns après les autres de mauvais résultats. Et Volkswagen, numéro 1 en Europe, eh bien, n'échappe pas à cette tendance. Reportage à Wolfsburg, où se trouve le siège du constructeur et où la crise tient la région en haleine. Reportage Nathalie Versieux.
Il est presque 14h à Wolfsburg, l'heure du changement d'équipe. Des groupes d'hommes et de femmes sortent visage fermé de ce qui ressemble à une bouche de métro. Un écriteau fixé en haut des escaliers indique « Tor 17 », l'entrée 17 de l'usine, à 200 mètres de la gare et l'une des plus utilisées par les salariés. Samia vient de finir sa journée. Fille d'immigrés tunisiens à la chaîne, cet employé de bureau, doudoune rouge et visage avenant, a connu plus d'une crise chez Volkswagen.
Oui, mais ce n'était pas comme maintenant. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais vous voyez, cette collègue, par exemple, je parlais avec elle tout à l'heure, et elle est là depuis 43 ans. Elle va à la retraite cette année. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu ça. Bien sûr, il y a toujours des solutions. Mais là, ce sont vraiment des solutions violentes, des licenciements. Il faut voir, les gens ont peur. Peur pour leur emploi, pour leur sécurité.
Samia s'inquiète notamment pour les salariés des usines d'ex-RDA du groupe des régions où il sera plus difficile de retrouver un emploi. À Wolfsburg, chaque famille tremble depuis que le constructeur a annoncé début septembre vouloir résilier la garantie de l'emploi négociée avec les syndicats. Des dizaines de milliers de postes sont menacés. Trois usines pourraient fermer en Allemagne pour la première fois dans l'histoire du groupe. Devant la porte 17, l'inquiétude est palpable. Franck, la quarantaine, fils et petit-fils d'ouvriers de l'usine, s'apprête à prendre son poste.
Je travaille dans l'atelier des portes. On pose les câbles, la vitre, les isolants tout autour, le rétroviseur. Le rythme, c'est normalement une minute par geste, mais comme la production a diminué, on a baissé. On est maintenant à 2 minutes.
Les négociations sur l'avenir du groupe entre la direction et le puissant comité d'entreprise et le syndicat IG Metall reprendront le 21 novembre dans le stade Volkswagen de la ville, financé par le constructeur. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et retour à Paris dans 2 minutes. Ce sera la première édition d'Afrique Soir sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau hip-hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.